9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche et de votre fidélité. Bonjour Françoise Sautret, vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Bienvenue à Beurre FM, c'est une première pour vous, mais c'est depuis si longtemps votre engagement qui fait que vous êtes ce dimanche matin notre invité et nous allons parler en ce 3 décembre, évidemment, et depuis que je le fais depuis quelques semaines et Beurre FM aussi dans d'autres émissions, nous commémorons la marche pour l'égalité et contre le racisme. On va le rappeler, en 83, l'initiative de Christian Delorme, de Toumi Djadja et d'autres jeunes des quartiers de Lyon décident de manifester suite à une violence qui est faite par un chien policier sur la personne de Toumi Djadja qui va être hospitalisée. Et lors de cette hospitalisation, des jeunes et le curé des Maguettes, comme on l'appelle, Christian Delorme, vont décider une manifestation pacifiste qui portera un combat contre le racisme et contre cette violence policière dans les quartiers, mais aussi parleront d'égalité. Cette marche partira le 15 octobre de Marseille. Ils étaient une quinzaine et elle arrivera dans un nombre de 100 000 personnes à Paris. 100 000 personnes à Paris, c'est pas rien. C'est dire si la mobilisation, ils arriveront le 3 décembre, donc, c'est dire si la mobilisation aura été importante. Vous êtes là ce dimanche matin, François, ce serait parce que vous allez nous parler de votre engagement. Je l'ai dit, il est un homme engagé depuis si longtemps. Il est coprésident du MRAP. Et le MRAP était dans cette histoire aussi, puisque la marche, elle a été portée par de nombreuses associations, dans des collectifs d'organisations syndicales, politiques. On retrouvait le MRAP aussi dans quelques étapes, mais pas que. Vous nous en parlerez. Et le MRAP est toujours présent pour célébrer ses 40 ans, puisque vous êtes dans la co-organisation de l'appel et de la manifestation qui aura lieu à Paris ce dimanche, cet après-midi, donc, à 14h, à Montparnasse. Parler du MRAP, donc, de votre engagement, François Sautret, c'est depuis bien longtemps déjà.
Alors, j'ai une vie très chargée du point de vue des actions. En réalité, j'ai commencé par avoir une action syndicale, puisque j'ai été responsable du SNES, le syndicat national des enseignements du secondaire, le syndicat des profs de lycée et collège, comme on dit. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré de nombreuses associations, puisque j'étais responsable pendant de nombreuses années de ce qu'on appelait le secteur droit et liberté. Et donc, je traitais des sans-papiers, je traitais du droit au logement, je traitais du racisme, etc. Donc, ensuite...
Naturellement, vous rejoignez...
Au moment de la retraite, on m'a pas laissé le temps de souffler, des amis se sont occupés de mon agenda. Ils ont eu peur que je m'ennuie. Et donc, oui, je me suis retrouvé au MRAP où j'étais déjà, mais dans les directions du MRAP, puis maintenant co-président depuis le dernier congrès.
Et quand je rappelle que l'histoire du MRAP est très liée à la marche, vous êtes le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, son intitulé le voilà, mais à l'oreille, je pense que nos auditeurs et auditrices connaissent ce mouvement antiraciste depuis bien longtemps, mais rappeler son intitulé est important aussi. Donc on a retrouvé le MRAP dans quelques étapes de la marche qui rejoignait ce collectif pour accueillir les marcheurs et marcher de ville en ville, puisque c'était comme ça que ça se passait, mais il y avait d'autres activités du MRAP, vous me disiez.
On a eu des accueils à Valence, à Metz en particulier, dans d'autres villes aussi, et on a eu aussi des activités, je dirais, parallèles à la marche, puisque la marche a été essentiellement le long du Rhône et de l'Est de la France, et l'Ouest était absente de la marche. Et donc, on a quelques comités locaux, puisque c'est comme ça que ça s'appelle chez nous, de Bretagne, de Normandie, à Saint-Lô, qui ont eu une activité en rapport, en lien avec la marche. Bon, il n'y avait pas de marcheurs pour passer, mais il y a quand même eu des activités, oui.
Qui étaient, bon, les débats que portaient les marches, égalité, contre le racisme, évidemment.
Je rajoute une des revendications importantes déjà pour nous au MRAP à l'époque, qui était porté par les marcheurs, c'est le droit de vote pour les résidents. puisque en France encore aujourd'hui, des gens qui travaillent depuis 10, 20 ans en France, bah, ils n'ont pas le droit de voter.
On y reviendra puisque c'est dans une deuxième partie, puisque c'est effectivement la vocation politique, citoyenne et politique qui était portée et qui a grandi au fur et à mesure que les étapes avançaient, que le monde rejoignait la marche. Et ça, c'est important de le souligner. Dans ces 40 ans qui séparent ces 100 000 personnes à Paris le 3 décembre et puis beaucoup le 3 décembre de 2023, il s'est passé les marcheurs nous le disaient quand ils étaient invités à des précédentes émissions, qu'il y avait à la fois ce monde qui donnait l'espérance, effectivement, que le droit de vote dont vous parlez, mais on y reviendra, mais aussi d'autres revendications de contre le racisme, lutter contre le racisme, tout ça, c'était des choses auxquelles ils croyaient, et puis finalement ils se sont... il y a une grande déception, il le rappelle souvent, dans le mouvement associatif aussi, au lendemain, au BRAP, de l'arrivée de la marche, les mois ont passé, et puis, j'allais presque dire, on voyait rien venir.
Alors, je dirais pas on voyait rien venir, il y a des choses qui ont été obtenues par la marche, faut pas l'oublier. Oui. Par exemple, la carte de 10 ans, c'est une victoire de cette marche, mais malheureusement, c'est des victoires qui ont été grignotées par la suite. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on dit on marche encore, c'est que notre constat, c'est que la lutte contre le racisme est aujourd'hui d'une actualité encore plus brûlante qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. L'ultra-droite, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, l'extrême droite du FRN Azemmour et les groupuscules relèvent la tête de manière extrêmement... Et la vie quotidienne, la vie quotidienne de nos concitoyens dans les quartiers qui sont contrôlés 10 fois.
C'est ce que vous entendez quand il y a des gens qui appellent l'OMRA, par exemple, pour dénoncer ces violences
racistes. Tout à fait, on a des problèmes. Alors, nous, on ne pratique pas, comme d'autres associations, le testing, mais on reçoit en effet des signalements de gens qui n'ont pas obtenu l'appartement qu'ils voulaient parce que quand on a découvert la couleur de leur peau d'un seul coup, l'appartement qui était libre ne l'était plus. Des gens qui n'ont pas obtenu le travail qu'ils voulaient parce que à la vue de leur adresse, leur simple adresse dans une ville du 93 par exemple, suffit à leur bloquer les portes. On peut pas dire aujourd'hui que la situation soit mirifique. Il y a des avancées, mais qui sont tellement contrebalancées par des reculs. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens, j'ose plus dire issus de l'immigration, parce qu'ils sont issus de l'immigration depuis 3, 4, 5 générations déjà, mais des gens, disons, vécus comme racisés, ont le bac. Beaucoup plus qu'il n'y en avait.
Bac plus 3,
voilà,
des fois.
Ils sont des bac plus 3, on en trouve. Mais. À côté de ça, je maintiens, il y a le contrôle au faciès, il y a les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, et les insultes. Et puis tout récemment, un coup de cutter en travers de la gorge, la personne qui a été égorgée, coup de chance, le coup de cutter n'a pas tranché l'artère, mais il aurait pu y rester. Ça devient extrêmement compliqué.
Ça devient compliqué dans cette France d'aujourd'hui où effectivement, comme vous l'avez souligné, l'extrême droite, parce qu'on va la nommer ainsi quand même, tient haut et fort la violence verbale, du racisme au quotidien. On l'appelle maintenant les quartiers populaires, mais ça s'appelait banlieue, et on va illustrer la banlieue avec Karim Cassel.
Il regarde sa ville tranquille et il attend. Il sait qu'il est fragile, difficile et pourtant. Il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue. Le chômage à son âge. jour et l'ennui. Ce n'est qu'un enfant qui rêve de grand vent. Donnez-lui de l'espace, qu'il efface ses tourments. Un bon Dieu, empêche-les.
Chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin François Sautret, il est coprésident du MRAP et nous parlons de la marche pour l'égalité contre le racisme. 40 ans déjà, ils traversaient la France de Marseille à Paris. Ils étaient si peu nombreux à Marseille pour arriver à 100 000 à Paris, c'est dire si l'importance de cette marche pour l'égalité contre le racisme avait un sens dans une société française gangrénée par l'extrême droite et par le racisme pour dénoncer et le racisme et évoquer l'égalité. Enfin, en tout cas, vous l'avez rappelé, il y avait une égalité, il y a à l'arrivée de la marche une promesse. Qui était une réalité faite par le président de l'époque, François Mitterrand, au marcheur, lors de son entretien avec le marcheur, qui était d'accorder la carte de 10 ans, mais le droit de vote n'est toujours pas là. Vous l'avez souligné, François Sautret. Dans cette deuxième partie, si vous le voulez bien, on va évoquer tout ce qui a fait que depuis 40 ans, nous sommes au rendez-vous de cette commémoration, certes, mais pour des raisons essentielles, qui sont ces raisons d'égalité, de droit de vote, de justice, dénoncer le racisme, et de vérité dans ce qu'ont été les crimes racistes aussi, où il y a souvent des injustices, même dans le jugement qui a été rendu quand un homme a tué un jeune dans un quartier et que il y a des impunités, voilà. Donc on est dans ces 40 ans quelque chose d'important en termes de mémoire. Et j'ai sous les yeux justement le livre de Mehdi Lalaoui, Mémoire au pluriel, pour l'égalité et la justice, qui affiche l'arrivée de la marche à Montparnasse, comme nous le serons cet après-midi pour les 40 ans, mais aussi le pour l'égalité, pour la justice, pour la liberté de circulation. Voilà toutes ces questions qui se posent encore aujourd'hui. C'est bien cela, la volonté de commémoration, François Sautret ?
Alors, pour nous, on est quelque part au-delà de la commémoration. C'est-à-dire que il y a un devoir de mémoire, il faut transmettre l'histoire et que les gens sachent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on leur dit la marche de 83, ça leur parle pas immédiatement. Il faut leur expliquer. Il faut faire ce travail de mémoire. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est une obligation de reprendre la marche. Parce que les causes qui ont provoqué la marche en 83 sont toujours là. Le racisme au quotidien, dans la rue, etc. Le racisme dans les commissariats. Aujourd'hui, par exemple, notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dit que il y a une légère augmentation des actes anti-arabes et anti-musulmans comparé à une énorme augmentation des actes antisémites. Mais le problème, c'est qu'un jeune de banlieue qui subit une discrimination, mais il va pas dans un commissariat, tout simplement parce qu'il a pas confiance pour rentrer dans un commissariat. C'est un vrai problème de notre point de vue, le schisme qui s'est créé entre la police et la population. Les problèmes existent toujours, et c'est pour ça qu'on dit, 40 ans après, on marche encore, et que symboliquement, on a décidé de repartir du point d'arrivée de la manifestation en 83, puisqu'on marche encore. On a fait pause en 83 à Montparnasse, et aujourd'hui, on fait start depuis Montparnasse. Tout à l'heure, on va marcher depuis Montparnasse.
Voilà une marche qui va rappeler que juin 2023, qu'est-ce qui s'est passé juin 2023 ? Une violence policière, hein ? Un policier tué à bout portant, Naël, ça se passait à Nanterre, mais on apprendra par la presse qu'il n'y a pas eu que Naël ces jours-là. Enfin, entre ce jour-là et les deux, trois jours précédents, il y avait trois ou quatre jeunes qui ont été tués, ou en tout cas violemment blessés. Les jeunes dans les quartiers, comme on dit, ou dans la banlieue, comme c'était chanté, mais avec la sagesse qu'avait à la fois ce texte de dire que la banlieue va mal, c'était ça aussi le texte de Karim Kassel, auquel on est attaché à Beurre FM. C'est une histoire de banlieue, une histoire d'immigration, une histoire de mal-être dans les banlieues, même s'il y avait une histoire de fraternité avant, on le dit souvent, il y a aujourd'hui un vrai malaise, c'est quand même une inquiétude ça.
Oui, alors, je crois qu'il y a toujours, dans les quartiers, dans les banlieues, comme on veut les appeler, moi ça me... Voilà, bon, je m'en moque un peu, la réalité c'est qu'il y a des zones qui ont été abandonnées par la République, où le taux de chômage est 10 fois supérieur au reste de la France, où les jeunes vivent les contrôles au faciès quotidiens. Quand je dis quotidien, c'est plusieurs fois par jour, par les mêmes policiers d'ailleurs qui les connaissent et qui les appellent par leur prénom, ce qui est quand même ridicule. Donc voilà, dans ces endroits-là, les discriminations, elles sont toujours là. Et parce que... Alors ils nous ont fait des jolis plans pour les quartiers populaires, ils nous ont fait des... Aujourd'hui, on ne peut plus déposer une demande de subvention si quelque part on n'a pas marqué QP. voilà. Mais dans la réalité, les choses n'ont pas progressé. Et les jeunes surtout, mais pas que, hein, mais les jeunes... Ceci dit, je pense qu'il y a quand même toujours une solidarité, parce que c'est toujours les pauvres qui aident les pauvres.
Dans ces quartiers populaires, il y a aussi une interrogation. On parle d'abandon des quartiers, vous le dites aussi. Cet abandon des quartiers, il a aussi entraîné un enfermement, un communautarisme qui fait que ça devient... Il y a une espèce de tension aussi au niveau local qui est quand même difficile à oui. comprendre.
Oui, parce que de fait, on a une dynamique de ghetto. C'est quand on met des gens ayant tous le même type, entre guillemets, type social, etc., dans un même endroit, pour en sortir, c'est extrêmement compliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fonctionne en cercle fermé, avec tous les risques de création d'une communauté mythique, parce que par ailleurs ils n'ont pas toujours des
été au pays.
Voilà. Non, mais c'est ça. C'est
bien sûr.
Mais c'est vrai que la création de lieux d'enfermement, par exemple. Des fois, il y a des choses positives qui sont faites. Moi, j'habite dans le 20e arrondissement, pas très loin d'un endroit qui s'appelait le 140 Ménilmontant. J'étais enseignant à l'époque, et quand des gamins venaient c'était une vieille cité enfermée et qui vivait dans des conditions abominables, hein, toilettes sur les paliers, l'eau en bas, il fallait descendre avec des seaux pour faire le plein d'eau pour la journée. Et les mômes n'osaient pas dire qu'ils venaient du 140. Ils étaient dispersés sur tous les collèges du 20e pour éviter alors aujourd'hui, ils ont rouvert le machin, construit une grande allée au milieu et réintroduit une mixité sociale, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est le fait de pas mettre tous les gens ayant les mêmes problèmes au même endroit. C'est voilà. Malheureusement, en banlieue, c'est pas une dynamique encore très très développée. Si, les seuls endroits où ils rasent les quartiers populaires, c'est à Saint-Denis pour construire les Jeux Olympiques, mais bon, c'est...
Sur d'autres combats qui étaient portés par la Marche pour l'égalité, il y avait aussi il y avait le slogan Marche pour l'égalité et contre le racisme, et puis il y avait cette attitude médiatique aussi que de dire que c'était la marche des beurs. Donc là, on était encore dans l'enfermement. Donc évidemment, vous doutez bien que à Beurre FM, on a absolument rien contre le mot beurre. Voire même Radio Beurre était, Beurre FM s'appelait Radio Beurre à l'époque, et était au quotidien, comme nous le sommes encore aujourd'hui, dans la commémoration, au quotidien en tout cas dans cette marche. Ce que je veux dire, c'est que on a aussi une inquiétude. Voilà, les 40 ans, c'est aussi veiller à ce qui se dit médiatiquement, et voilà, parce que médiatiquement, dire la marche des beurs, c'est stigmatisé. Il y a voilà toute une discussion médiatique qui est importante autour de la dénonciation de ce qu'était dans la marche le combat réel d'égalité. On se retrouve dans un instant. Vous avez parlé de violence policière. Nous avons parlé de violence policière. On va écouter Rachida qui nous dit voilà voilà.
Regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça recommence.
vos chapitres revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin François Sauteret, il est coprésident du MRAP et nous parlons des 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Ce dimanche 3 décembre 2023, voilà 40 ans que des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes ont traversé la France pour dénoncer le racisme et parler d'égalité. Cette organisation de mémorial, vous l'avez rappelé que c'est voilà, comme un devoir de mémoire que de rappeler ce qu'était la marche il y a 40 ans, mais c'est aussi une volonté citoyenne, politique, que de dire 40 ans après, il faut qu'on avance sur l'égalité, qu'on dénonce à nouveau le racisme et qu'il y ait plus de justice, etc. Donc, comment s'est organisé, s'est déployé, voilà, toute cette machine pour que ce soit un succès cet après-midi, là, les 40 ans de la marche? Alors, on marche encore, vous avez dit.
Les décennales, les anniversaires des 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., sont toujours des moments importants qui réveillent l'envie, le besoin de commémorer, de manifester. Mais nous, au MRAP, mais pas que nous, d'autres, Mehdi Lalaoui, au nom de la mémoire, on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude d'initiatives qui partaient un peu dans tous les sens, et surtout de manière absolument pas coordonnée, avec un risque, de notre point de vue, d'un éclatement et du coup...
D'une perdition de...
Voilà,
de...
Donc, on s'est rencontrés et on s'est dit, bon, ce qu'on propose, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais l'important... La chose fondamentale, c'est que le 3 décembre, aujourd'hui, il y ait une grande manifestation contre le racisme, pour l'égalité, et on a tout fait pour ça. On s'est adressé aux différents collectifs qui composaient ici une coordination, ici à Nanterre, un colloque, à Marseille. Alors, on s'est adressé à tout le monde et on a dit, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il peut, mais le 3, on se retrouve tous. On a écrit un appel, on l'a proposé, modifié, amendé, chacun a mis son grain de sel. Aujourd'hui, on a un texte qui est porté par l'ensemble des organisations politiques de gauche, de la LFI, du PC, du PS, Ensemble, puis tout un tas d'autres organisations. Les grandes organisations syndicales, CGT, Solidaire, FSU, et puis une trentaine d'associations recouvrant tous les domaines. Donc voilà, aujourd'hui, on a un appel commun de toutes les organisations, et on va co-organiser la manifestation avec l'UCIJ, parce que eux, ils sont mobilisés sur la loi Darmanin, qui arrive demain à l'Assemblée nationale, et donc ils souhaitaient pouvoir manifester contre la loi Darmanin, et c'était évidemment compliqué de faire deux manifestations le même jour, donc on fait deux manifestations en une, voilà. C'est...
Mais après, porter, je le rappelais tout à l'heure, là, les intitulés dans les tracts pour l'égalité des droits, pour la justice, pour la liberté de circulation, contre la double peine, et puis les centres de rétention, c'est des combats qui sont aussi des combats de la marche pour l'égalité d'une certaine manière.
Tout à fait.
C'est des combats qui sont portés par les mots importants de justice, d'égalité.
Il y a absolument aucune contradiction, ni aucun... il y a eu deux fils qui se tressent ensemble et qui arrivent
se rejoignent
à une seule manifestation.
Et qui seront, voilà. Et le rassemblement, il est prévu donc à Montparnasse, on marche encore de Montparnasse, sur l'esplanade de Montparnasse, pour les auditeurs, auditrices.
Alors, sur ce qu'on appelle la place du 18 juin, c'est-à-dire pas devant la gare elle-même, mais en bas, sur le boulevard du Montparnasse.
Quand on est tout au bout de la rue de Rennes.
Voilà, c'est ça, en haut de la rue de Rennes, devant la tour.
Et là, les revendications, comme c'est une manifestation par définition, apportent, proposent des revendications, ou manifestants, et donc on suit ces revendications. Quelles sont-elles, celles de la commémoration des 40 ans?
Clairement, c'est celle de la manifestation d'il y a 40 ans, c'est-à-dire la justice, alors la justice dans tous ses aspects, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas que des policiers qui ont tué volontairement, pas par accident, mais volontairement, soient aujourd'hui blanchis par la justice. Nous ne comprenons pas que, à contrario, un voleur de pommes soit condamné très lourdement. Nous ne comprenons pas que voilà, la justice deux poids deux mesures, ce n'est pas ça que nous appelons, nous, la justice.
Sur les droits,
sur les droits, droits
de vote, sur le, alors, ces promesses non tenues.
Sur
depuis...
les droits, déjà revenir sur cette fameuse carte de 10 ans dont aujourd'hui l'obtention est quasiment impossible. La reconduction devient très compliquée parce que il faut passer par des plateformes et les gens qui sont pas obligatoirement très familiers avec les plateformes informatiques pour demander. Il n'y a plus de rendez-vous physique en préfecture. Enfin bon, et c'est valable pour la carte de 10 ans, mais c'est valable pour l'ensemble des cartes et l'ensemble des dossiers en préfecture. Et ce qui fait que aujourd'hui, on a des gens qui sont là totalement légalement, mais parce qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de renouveler leurs papiers dans les temps et en heure, se retrouvent illégaux. Ce qui est une absurdité complète. Donc voilà, et donc l'égalité n'est pas là. L'égalité des droits sur le droit de vote. Alors, les jeunes de 83 manifestaient sur l'idée que eux, Français, avaient le droit de vote, mais que leurs parents ne pouvaient pas voter. Et donc, ils se battaient pour que leurs parents, qui étaient là depuis des années, aient le droit de vote. Aujourd'hui, on porte le MRAP, mais aussi le MRAP est membre d'un collectif qui s'appelle J'y suis, j'y vote, porte l'idée que il faut une citoyenneté de résidence, c'est-à-dire que on travaille ici depuis des années, on paye nos impôts, on paye, enfin, voilà, mais on n'a pas le droit de donner notre avis sur la manière dont cet argent, ces impôts sont utilisés.
Alors il y avait la volonté pour certaines associations que le droit de vote soit accordé au niveau des municipales, des... Et puis après il y a des citoyens qui en France de nationalité européenne qui ont le droit de vote et voilà. Ouais. Il y a aussi un double.
Il y a maintenant cet aspect-là avec d'ailleurs des choses amusantes comme enfin amusantes. Je m'entends comme par exemple les conséquences du Brexit avec certains villages du Périgord dont le maire était anglais puisqu'il était européen et qu'il avait le droit d'être élu et du jour au lendemain il s'est retrouvé hors Europe et donc expulsé de la mairie. Mais sauf que certains villages du Périgord, il y a 90% d'anglais qui habitent là. Et donc, du coup, il n'y a plus de municipalité parce qu'il n'y a plus de possibilité d'élire. Ça donne des résultats assez, assez bizarres. Bon, enfin, oui, il y a... le droit de vote, aujourd'hui, c'est... Alors, nous, le MRAP, on est pour le droit de vote à toutes les élections. On est plus largement, mais la campagne que nous portons de manière unitaire, c'est le droit de vote aux élections locales et européennes.
On va marcher ce dimanche à 14h de Montparnasse. Il y a un parcours.
Le parcours est en discussion avec la préfecture.
On se retrouve tous et toutes à Montparnasse, c'est ce que vous souhaitez.
Voilà, et on ira vers la place d'Italie.
Et cette mobilisation, vous l'attendez nombreuses, j'en suis sûr, mais ça veut dire qu'il faut vraiment dire haut et fort ces revendications.
Il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde.
Ça va inquiéter et bousculer le ministre de l'Intérieur le lendemain, je pense.
Oui. Il faut que les discussions à l'Assemblée nationale. Je sais bien qu'il y a des discussions hein, dans les marcheurs et tout sur le crédit qu'on peut accorder aux politiques, mais il y a des gens qui vont proposer des modifications importantes au texte de Darmanin. Il faut que ces gens aient derrière eux du monde qui pousse. Voilà,
ce sera les mots de la fin. Merci François Sautret d'être venu à Beurre FM ce dimanche matin nous parler de, des 40 ans de la marche pour l'égalité. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Mehdi Lalaoui, Mémoire pour l'égalité et la justice. Il a paru aux éditions Au nom de la mémoire. Et c'est un livre important parce qu'il rappelle justement tout ce qu'on s'est dit là et ce qu'on s'était dit précédemment sur d'hier à aujourd'hui, où en est-on et il faut marcher encore. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.
Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.